Laodicée, numéro 1. La prophétie de malheur d'Isaïe pour la vallée de la vision.
Oracle sur la vallée de la vision. Qu'as-tu donc que tu es montée tout entière sur les toits? Toi, pleine d'agitation, ville tumultueuse, ville joyeuse, tes morts ne sont pas tombés par l'épée, ni morts au combat. Tous tes chefs ont fui ensemble, faits prisonniers par les archers. Tous ceux qu'on a trouvés chez toi ont été liés ensemble, eux qui avaient fui au loin. C'est pourquoi j'ai dit « Détournez de moi vos regards, je pleurais amèrement. Ne vous donnez pas la peine de me consoler, à cause du pillage de la fille de mon peuple. Car c'est un jour de détresse, d'écrasement et de confusion de la part du Seigneur, le Dieu des armées, dans la vallée de la vision. On abat les murailles et l'on crie vers les montagnes. » Ésaïe 22, 1-5.
Dans le livre d'Ésaïe, le mot « fardeau » apparaît 18 fois. 11 de ces occurrences désignent directement des prophéties de malheur, et les 7 autres renvoient au fardeau comme à quelque chose que l'on porte sur l'épaule. Une seule des occurrences traduites par « fardeau » désigne quelque chose porté sur l'épaule et constitue aussi une prophétie de malheur. Je compte aborder cette occurrence du mot hébreu qui désigne quelque chose de porté et qui est également une prophétie de malheur. Je précise donc cette distinction d'emblée, même si nous ne reviendrons à ces faits que plus tard. Le chapitre n'est pas vague quant à la définition de la « vallée de la vision », car elle est identifiée comme la « cité de David » et aussi comme Jérusalem. La « vallée de la vision » renvoie à l'adventisme laodicéen durant l'histoire des 6 derniers versets de Daniel 11. Ésaïe a posé le contexte de ce malheur avec l'histoire présentée au chapitre 20, en décrivant la conquête progressive du monde par le roi d'Assyrie qui avait envoyé un chef militaire nommé Tartan pour s'emparer d'une ville en Égypte appelée Ashdod. La loi du dimanche est identifiée dans Daniel 11, verset 41, lequel identifie 3 groupes qui échappent à l'emprise de la papauté au moment de la loi du dimanche.
Dans l'année où Tartan vint à Ashdod, lorsque Sargon, roi d'Assyrie, l'envoya, il combattit contre Ashdod et la prit. En ce temps-là, le Seigneur parla par Ésaïe, fils d'Amoz, en disant « Va, détache le cilice de dessus tes reins et ôte la sandale de ton pied. » Et il fit ainsi, marchant nu et pieds nus. Et le Seigneur dit « De même que mon serviteur Ésaïe a marché nu et pieds nus pendant 3 ans, comme signe et prodige contre l'Égypte et contre l'Éthiopie, ainsi le roi d'Assyrie emmènera les Égyptiens prisonniers et les Éthiopiens captifs, jeunes et vieux, nus et pieds nus, même les fesses découvertes, à la honte de l'Égypte. Et ils auront peur et auront honte de l'Éthiopie, leur espérance, et de l'Égypte, leur gloire. Et l'habitant de cette île dira, en ce jour-là, « Voici, telle est notre espérance, vers qui nous fuyons pour obtenir du secours afin d'être délivrés du roi d'Assyrie. Et comment échapperons-nous » Ésaïe 20, 1, 6.
La question soulevée par les habitants de l'île est de savoir comment ils peuvent échapper au roi d'Assyrie, qui est également représenté comme le roi du Nord dans Daniel 11.
Il, le roi du Nord, entrera aussi dans le pays glorieux, et beaucoup de pays seront renversés. Mais ceux-ci échapperont à sa main, Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon. Daniel 11, 41.
Dans ce verset, la loi du dimanche aux États-Unis est identifiée, et il y a dans le passage de Daniel quelques nuances subtiles qui méritent d'être prises en compte. Il y a 3 versets d'affilée dans Daniel 11, versets 40 à 43, qui identifient tous des pays. Au verset 40, les pays représentant l'ancienne Union soviétique ont été balayés par la papauté et les États-Unis en 1989. Les historiens modernes confirment ce fait. Puis, au verset 42, nous trouvons le mot « countries », représentant tous les pays de la planète Terre, alors que le roi du Nord, la papauté, s'empare de l'Égypte, qui représente le monde entier. C'est l'une des nuances. L'autre des 2 nuances auxquelles je fais référence dans ces 3 versets concerne le mot « escape » au verset 41, puis de nouveau au verset 42. Il s'agit de 2 mots hébreux différents, bien que tous deux soient traduits par « escape ». Le mot hébreu traduit par « escape » au verset 42 signifie l'absence de délivrance, car lorsque les 10 rois, représentant les Nations Unies, acceptent de remettre leur gouvernement mondial unique sous le contrôle de la bête papale, il n'y a pas d'échappatoire, pas de délivrance.
Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils recevront autorité en tant que rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée, et ils donneront leur puissance et leur force à la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés élus et fidèles. Et il me dit, Les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée, la rendront désolée et nue, mangeront sa chair et la brûleront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté, d'être d'un même avis et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17, 12, 17.
Ces 10 rois sont mentionnés à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et dans l'histoire d'Élie, Achab, le roi d'Israël, était à la tête de 10 tribus, et il était marié à Jézabel. Jézabel représente la papauté à la fin du monde. Élie représente les messagers du message du troisième ange, et Achab est le chef d'une alliance de 10 rois. Achab représente les États-Unis en tant que chef des Nations Unies durant l'histoire prophétique de la loi du dimanche. Lorsque l'Égypte est capturée par l'Assyrie, le roi du Nord de Daniel 11, 42 vient tout juste de contraindre les 10 rois à accepter de céder leur royaume au pouvoir papal.
À l'approche de la dernière crise, il est d'une importance vitale que l'harmonie et l'unité existent parmi les instruments du Seigneur. Le monde est rempli de tempêtes, de guerres et de dissensions. Pourtant, sous une seule tête, la puissance papale, les peuples s'uniront pour s'opposer à Dieu en la personne de ses témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat. Tandis qu'il cherche à unir ses agents pour faire la guerre à la vérité, il s'emploiera à diviser et à disperser ses défenseurs. La jalousie, les mauvais soupçons et la médisance sont suscités par lui pour produire la discorde et la dissension. Témoignage, volume 7, 1802.
Au verset 41, nous trouvons le mot « échapper ». Et nous trouvons aussi le mot « échapper » au verset 42. Mais il s'agit de deux mots hébreux différents. Le mot traduit par « échapper » au verset 41 signifie « s'échapper », comme en glissant. C'est le mot traduit par « échapper » au verset 6 du chapitre 20 d'Ésaïe. En ce jour-là, l'habitant de cette île demande comment il peut échapper à l'Assyrien qui, en ce jour-là, conquiert progressivement le monde, comme l'illustre Daniel 11 et plusieurs autres passages de l'Écriture. Dans Daniel 11, verset 41, lorsque la papauté, ou comme Daniel le représente, le roi du Nord, ou comme Ésaïe le représente, l'Assyrien, conquiert le pays glorieux, représentant les États-Unis, deux groupes sont identifiés.
Il entrera aussi dans le pays glorieux, et de nombreux pays seront renversés. Mais ceux-ci échapperont à sa main, à savoir Édom, Moab et le chef des enfants d'Ammon. Daniel 11, 41.
L'un est constitué des « nombreux » qui sont renversés, et l'autre groupe est représenté par Édom, Moab et le chef des fils d'Ammon. Au moment de la loi du dimanche, Apocalypse 18, verset 4, appelle ceux qui sont encore à Babylone à sortir.
Et j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. » Apocalypse 18, 4.
Édom, Moab et le chef des chefs d'Ammon sont de ceux qui s'échappent à se dérobant, comme espèrent le faire les peuples de l'Ien dans Ésaïe 20. Au verset 41, l'autre nuance à laquelle je me réfère est qu'au verset 40, 41 et 42, nous trouvons le mot « pays ». Mais au verset 41, c'est un mot ajouté, qui ne figure pas dans le texte original de Daniel et n'a pas sa place là. De nombreux pays ont été renversés en accomplissement du verset 40 lors de l'effondrement de l'Union soviétique et de nombreux pays sont capturés lorsque la papauté prend le contrôle des Nations unies. Mais à la loi du dimanche aux États-Unis, les « nombreux » qui sont renversés ne sont pas de nombreux pays. Ils ne peuvent être que des adventistes du septième jour.
Si la lumière de la vérité vous a été présentée, révélant le sabbat du quatrième commandement, et montrant qu'il n'y a aucun fondement dans la parole de Dieu pour l'observance du dimanche, et que pourtant vous vous attachez encore au faux sabbat, refusant de sanctifier le sabbat que Dieu appelle « mon saint jour », vous recevez la marque de la bête. Quand cela a-t-il lieu ? Lorsque vous obéissez au décret qui vous ordonne de cesser tout travail le dimanche et d'adorer Dieu, alors que vous savez qu'il n'y a pas un seul mot dans la Bible montrant que le dimanche soit autre chose qu'un jour ouvrable ordinaire, vous consentez à recevoir la marque de la bête et refusez le sceau de Dieu. Review and Herald, 13 juillet 1897.
Tout membre de l'Église adventiste du septième jour a accepté la doctrine du sabbat lorsqu'il est devenu pour la première fois membre baptisé de l'Église, et il est tenu pour responsable à l'égard de la lumière de la vérité concernant le sabbat.
Le changement du sabbat est le signe ou la marque de l'autorité de l'Église romaine. Ceux qui, comprenant les exigences du quatrième commandement, choisissent d'observer le faux sabbat au lieu du vrai, rendent ainsi hommage au pouvoir qui seul leur donne. La marque de la bête, c'est le sabbat papal, que le monde a accepté à la place du jour fixé par Dieu. Personne n'a encore reçu la marque de la bête. Le temps de l'épreuve n'est pas encore venu. il y a de véritables chrétiens dans chaque église, sans en excepter la communion catholique romaine. Nul n'est condamné avant d'avoir reçu la lumière et d'avoir reconnu l'obligation du quatrième commandement. Mais lorsque le décret sera promulgué, imposant le faux sabbat, et que le grand cri du troisième ange avertira les hommes contre l'adoration de la bête et de son image, la ligne sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Alors ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. À grands pas, nous approchons de cette période. Lorsque les églises protestantes s'uniront au pouvoir civil pour soutenir une fausse religion, s'opposer à laquelle valut à leurs ancêtres les persécutions les plus féroces, alors le sabbat papal sera imposé par l'autorité conjointe de l'Église et de l'État. Il y aura une apostasie nationale qui ne pourra se terminer que par la ruine nationale. Manuscrit 51, 1899.
Au moment de la loi du dimanche, les seules personnes tenues pour responsables de la lumière du troisième ange sont les adventistes du septième jour, car ce n'est qu'alors que l'épreuve du troisième ange sera présentée à ceux qui sont en dehors de l'adventisme. Les nombreux renversés au moment de la loi du dimanche sont des adventistes de Laodicée, car le jugement commence par la maison de Dieu.
Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 20, 16.
Ésaïe est un signe et un prodige pour l'Égypte et l'Éthiopie concernant la conquête progressive du monde par la papauté. L'Égypte, ce sont les Nations Unies. L'Éthiopie, ce sont les États-Unis, et l'Assyrie, c'est la papauté. Dans le cadre de cette histoire prophétique, Ésaïe commence à exposer une série de prophéties de malheur. Le chapitre 22 concerne les Laodicéens, qui sont renversés au moment de la loi du dimanche, et les Philadelphiens qui appellent Édom, Moab et le chef des enfants d'Ammon à sortir de Babylone.
L'adventisme laodicéen manque du caractère nécessaire pour être sauvé, et il est vomi de la bouche du Seigneur au moment de la loi du dimanche. Je note ce fait uniquement pour souligner le point suivant. Ésaïe 22 représente une autre raison pour laquelle Laodicée est perdue, car la prophétie de malheur est dirigée contre la vallée de la vision. Il y a deux principaux mots hébreux qui sont traduits par vision. L'un représente la succession des événements prophétiques et l'autre représente une vision du Christ. L'un est externe à l'Église et l'autre est interne à l'Église. Le mot du chapitre 22 désigne la vision, représentant des événements prophétiques, et c'est le même mot traduit par « vision » dans le livre des Proverbes.
Faute de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi est heureux. Proverbes 29, 18.
Le fardeau de la vallée, de la vision, est la prophétie identifiant deux classes d'adorateurs dans l'Église de Dieu à la fin du monde. Une classe, représentée par Shebna, est Laodicée, et l'autre classe est Philadelphie, représenté par Tselakim, fils de Hilkia. La distinction entre les deux classes dans le chapitre est bien sûr la même distinction que celle de la parabole des 10 vierges. Une classe a l'huile à minuit et l'autre ne l'a pas. L'huile, en tant que symbole, représente différentes vérités selon le contexte où elle se trouve. Mais dans Ésaïe 22, l'huile des 10 vierges est représentée par le mot « vision ». Une classe a l'huile, l'autre ne l'a pas.
Les oins qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre occupe la position autrefois donnée à Satan comme chérubin protecteur. Par les êtres saints qui entourent son trône, le Seigneur maintient une communication constante avec les habitants de la terre. L'huile d'or représente la grâce par laquelle Dieu alimente les lampes des croyants, afin qu'elles ne vacillent pas et ne s'éteignent pas. Si cette huile sainte n'était pas répandue du ciel à travers les messages de l'Esprit de Dieu, les puissances du mal auraient la pleine domination sur les hommes. Dieu est déshonoré parce que nous ne recevons pas les messages qu'il nous envoie. Ainsi, nous refusons l'huile d'or qu'il voudrait répandre dans nos âmes afin de la transmettre à ceux qui sont dans les ténèbres. Quand l'appel retentira, « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre !» Ceux qui n'ont pas reçu l'huile sainte, qui n'ont pas chéri la grâce du Christ dans leur cœur, découvriront, comme les vierges folles, qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer leur Seigneur. Ils n'ont pas en eux-mêmes le pouvoir d'obtenir cette huile, et leur vie fait naufrage. Mais si nous demandons le Saint-Esprit de Dieu, si nous supplions, comme Moïse, « Fais-moi voir ta gloire !» L'amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs. Par les conduits d'or, l'huile d'or nous sera transmise. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. En recevant les rayons éclatants du soleil de justice, les enfants de Dieu brillent comme des lumières dans le monde. Review and Herald, 20 juillet 1897.
Les esprits des prophètes s'accordent entre eux. Et les deux oins de Zacharie sont aussi les deux témoins de l'Apocalypse 11.
Au sujet des deux témoins, le prophète déclare encore : Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Apocalypse 11:4, psaume 119:25. Les deux témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tous deux sont des témoignages importants de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. Tous deux sont aussi des témoins du plan du salut. Les figures, les sacrifices et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un Sauveur à venir. Les Évangiles et les Épîtres du Nouveau Testament parlent d'un Sauveur qui est venu de la manière exacte prédite par les figures et les prophéties. La Grande Controverse, 267.
Les deux oint de Zacharie représentent le processus de communication illustré au premier chapitre de l'Apocalypse. L'huile, qui est la vision prophétique des événements historiques, est transmise à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Au chapitre 11 de l'Apocalypse, ces deux témoins sont identifiés par le contexte comme Moïse et Élie. Moïse et Élie sont un symbole à eux seuls. Lorsqu'ils sont représentés ensemble, comme au mont de la Transfiguration ou dans le Apocalypse 11, ils symbolisent deux vérités différentes. Au mont, ils représentent les martyrs durant la crise de la loi du dimanche et les 144 000, tandis que dans le Apocalypse 11, ils représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais pour l'adventisme, ils représentent encore davantage. Les deux témoins pour les Juifs étaient la loi et les prophètes, représentant l'Ancien Testament, et les deux témoins pour les chrétiens étaient l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais pour l'adventisme, les deux témoins sont la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est pourquoi Jean était à Patmos.
Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 1:9.
Dans Ésaïe 22, les deux témoins de Moïse et d'Élie sont représentés, bien que cela ne puisse être reconnu que si vous appliquez le principe de l'alpha et de l'oméga au chapitre. Considérez où Jésus a commencé à expliquer la vision des événements prophétiques à ses disciples sur la route d'Emmaüs.
Commençant par Moïse, l'alpha même de l'histoire biblique, le Christ exposa dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Désir of Ages, 796.
Élie est le prophète qui paraît avant le grand et redoutable jour du Seigneur, avec un message fondé sur les principes de l'alpha et de l'oméga, ramenant le cœur des pères, alpha, vers les enfants, oméga. Moïse et Élie représentent l'alpha et l'oméga de la prophétie biblique. Si vous pouvez l'accepter, Moïse était William Miller. Moïse et Miller sont tous deux morts, et tous deux ont été reconnus par inspiration comme sauvés. Moïse est bien sûr ressuscité immédiatement après sa mort, mais des anges attendent autour de la tombe de Miller jusqu'à sa résurrection. Élie représente le dernier messager avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur.
Les Juifs ont essayé d'empêcher la proclamation du message qui avait été prédit dans la parole de Dieu. Mais la prophétie doit s'accomplir. Le Seigneur dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur. » Malachie 4:5. Quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie, et lorsqu'il paraîtra, des hommes pourront dire « Tu es trop zélé, tu n'interprètes pas les Écritures comme il convient. Laisse-moi te dire comment enseigner ton message. » Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas distinguer entre l'œuvre de Dieu et celle de l'homme. Je dirai la vérité telle que Dieu me la donne. Et je dis maintenant, si vous continuez à trouver à redire, à nourrir un esprit de discorde, vous ne connaîtrez jamais la vérité. Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jean 16:12. Ils n'étaient pas en état d'apprécier les choses sacrées et éternelles. Mais Jésus a promis d'envoyer le Consolateur, qui leur enseignerait toutes choses et leur rappellerait tout ce qu'il leur avait dit. Frères, nous ne devons pas mettre notre confiance dans l'homme. Cessez de vous confier en l'homme, dont le souffle est dans ses narines. Car que vaut-il ? Ésaïe 2:22. Vous devez appuyer vos âmes impuissantes sur Jésus. Il ne nous convient pas de boire à la source de la vallée, lorsqu'il y a une source sur la montagne. Laissons les ruisseaux d'en bas, allons aux sources d'en haut. S'il est un point de vérité que vous ne comprenez pas, sur lequel vous n'êtes pas d'accord, examinez, comparez l'Écriture avec l'Écriture. Faites descendre le puits de la vérité au fond de la mine de la parole de Dieu. Vous devez déposer vous-même et vos opinions sur l'autel de Dieu, écarter vos idées préconçues et laisser l'Esprit du ciel vous conduire dans toute la vérité. Message choisi, livre 1. 92.
Dans Ésaïe 22, Shebna et Eliakim représentent les sages et les insensés au sein de l'adventisme à la fin du monde, quand le roi du Nord marche sur Jérusalem. Eliakim, fils de Hilkia, possédait la vision. Shebna ne l'avait pas.
Faute de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi est heureux. Proverbes 29, 18.
Le message prophétique, c'est-à-dire la vision de ce verset, traite de deux choses. Si l'on comprend l'accroissement de la lumière prophétique, on vit. Sinon, on meurt. Si l'on ne comprend pas, on ne peut pas se préparer à garder le sabbat lors de l'épreuve de la loi du dimanche. Ce sera trop tard. Lorsque les adventistes laodicéens sont renversés au moment de la loi du dimanche, ils rejettent la loi parce qu'ils ont rejeté la vision de la vérité. Ils n'ont pas d'huile. Ils ne comprennent pas l'accroissement de la connaissance qui est dévoilée juste avant la clôture du temps de probation.
Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 17.
Le signe d'Ésaïe, c'est qu'il a marché nu et pieds nus pendant 3 ans. Il l'a fait pour avertir, par son message prophétique, ceux qui voudraient être avertis que, si vous ne comprenez pas la vision des événements prophétiques, vous en viendrez à la loi du dimanche et vous deviendrez captif, emmené dans un état malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ésaïe fut un signe et un prodige pour l'époque d'Ésaïe, mais plus encore pour la fin du monde.
Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement, à nous sur qui est arrivée la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, 11.
Dans les 5 premiers versets du chapitre 22, Jérusalem, la ville de David, est présentée comme une ville tumultueuse, une ville joyeuse, pleine de remous. Une formule biblique classique, employée même par les gens du monde, est utilisée dans ce chapitre pour représenter la ville joyeuse, tumultueuse, pleine de remous, lorsque ceux du verset 13 disent joyeusement « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Pourtant, bien qu'ils soient joyeux, leurs hommes sont tués, mais non par l'épée ni au combat. Et c'est pourquoi Ésaïe pose la question. Qu'as-tu donc ? Quel que soit leur mal, cela les a poussés à monter sur les toits. Les toits symbolisent l'adoration du soleil, de la lune et des étoiles. Ils symbolisent le spiritisme. Dans ce passage, l'adventisme est sous l'emprise d'une illusion spirituelle.
Et ceux qui se prosternent devant l'armée des cieux, sur les toits, et ceux qui se prosternent et qui jurent par le Seigneur, et qui jurent par Malcolm, et ceux qui se sont détournés du Seigneur, et ceux qui n'ont pas recherché le Seigneur, ni ne se sont enquis de lui. Fais silence en présence du Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a convié ses convives. Et il arrivera au jour du sacrifice de l'Éternel que je châtirai les princes et les fils du roi, ainsi que tous ceux qui se vêtent d'habits étrangers. Le même jour, je châtirai aussi tous ceux qui enjambent le seuil et qui remplissent les maisons de leurs maîtres de violence et de fraude. Sophonie 1, 5, 9.
Au moment de la crise de la loi du dimanche, l'adventisme, représenté par Jérusalem, se trouve dans la vallée de la vision. Ceux qui rejettent le message prophétique, représenté par l'huile ou la vision, pratiquent le spiritisme que Paul aborde dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. On y trouve aussi ceux, Shebna, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité.
Et pour cette cause, Dieu leur enverra une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 11, 12.
Bien sûr, le mot « vérité » qu'emploie Paul est le mot grec dérivé du mot hébreu « vérité », créé en combinant les 3 lettres hébraïques qui représentent l'alpha et l'oméga. Le rejet de la vérité, représenté comme le principe de l'alpha et de l'oméga, fait tomber sur les Laodicéens un puissant égarement. Et cet égarement est le spiritisme.
Dites le prophète Ésaïe, quand on vous dira « consultez ceux qui évoquent les esprits et les magiciens qui chuchotent et marmonnent », un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu ? S'adressera-t-on aux morts en faveur des vivants ? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a point de lumière en eux. Ésaïe 8, 19, 20. Si les hommes avaient été disposés à recevoir la vérité, si clairement exposée dans les Écritures au sujet de la nature de l'homme et de l'état des morts, ils verraient dans les prétentions et les manifestations du spiritisme l'œuvre de Satan, accompagnée de puissance, de signes et de prodiges mensongers. Mais plutôt que d'abandonner la liberté si agréable au cœur charnel et de renoncer au péché qu'ils aiment, des multitudes ferment les yeux à la lumière et marchent droit devant elle, sans se soucier des avertissements, tandis que Satan tisse ses filets autour d'elle, et elles deviennent sa proie. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés, Dieu leur enverra une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. La grande controverse, 585.
Dans Ésaïe 22, les hommes de la ville joyeuse sont tués, mais non par la bataille ni par l'épée.
ils sont liés ensemble et mis à mort avec les chefs qui se sont enfuis.
Si l'Église suit une voie semblable à celle du monde, elle partagera le même sort. Bien plus, puisqu'elle a reçu une plus grande lumière, son châtiment sera plus grand que celui des impénitents. Nous, en tant que peuple, professons posséder la vérité avant tous les autres peuples de la terre. Alors notre vie et notre caractère devraient être en harmonie avec une telle foi. Le jour est tout proche où les justes seront liés, comme du blé précieux, en gerbe pour le grenier céleste, tandis que les méchants, comme l'ivraie, seront rassemblés pour les feux du grand jour final. Mais le blé et l'ivraie poussent ensemble jusqu'à la moisson. Témoignage, volume 5, 100.
Dans Isaïe 22, la direction a été liée par les archers. Shebna est identifié comme un chef de la maison et son poste sera donné à Eliakim, le fils de Helkia. Dans Isaïe 22, le message prophétique représenté par la vision des événements prophétiques a produit deux classes d'adorateurs à Jérusalem, alors que le roi du Nord s'approche. Une classe est liée pour le grenier céleste et l'autre pour les feux des derniers jours. Ce qui a lié les méchants, ce sont les archers, l'un des nombreux symboles de l'islam dans la parole de Dieu.
Et le reste du nombre des archers, les hommes vaillants des fils de Kédar, sera réduit, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a dit. Ésaïe 21, 17. Et voici les noms des fils d'Ismaël, selon leur nom, selon leur génération. Le premier-né d'Ismaël, Nebajof, et Kédar, et Adbeil, et Mipsam, et Mishma, et Douma, et Massa, Hadar, et Tema, Jetur, Naphish, et Kedema. Ce sont les fils d'Ismaël, et ce sont leurs noms, selon leur ville et selon leur château, 12 princes selon leur nation. Genèse 25, 13, 16.
La direction de l'adventisme a été liée par des archers lorsqu'elle a rejeté le message selon lequel l'islam a attaqué les États-Unis le 11 septembre 2001, en accomplissement des prophéties bibliques. L'attaque du 11 septembre a été la confirmation du message qui avait été dévoilé en 1989 lors de l'effondrement de l'Union soviétique. L'attaque de l'islam du 11 septembre établissait un parallèle avec le 11 août 1840, lorsqu'une prophétie selon laquelle l'islam serait contenu a donné de la puissance au premier message angélique en confirmant la règle prophétique principale de Miller, selon laquelle un jour représentait une année. Le 11 août 1840 a été l'accomplissement d'un événement prédit, fondé sur le principe du jour pour une année. Lorsqu'il s'est accompli, le premier message angélique a été porté jusqu'à chaque poste missionnaire du monde entier. Le 11 septembre a confirmé la règle principale de la vision confiée à l'adventisme pour être proclamée. Cette règle est que l'histoire se répète. Lorsque le principe « un jour pour une année » a été confirmé le 11 août 1840, l'ange puissant d'Apocalypse 10 est descendu, marquant la puissance donnée au message de l'heure du jugement de Miller, préfigurant ainsi la descente de l'ange d'Apocalypse 18 le 11 septembre.
D'où vient la rumeur selon laquelle j'ai déclaré que New York doit être balayée par un raz-de-marée? Je n'ai jamais dit cela. J'ai dit, tandis que je regardais les grands bâtiments qui s'y élevaient, étage après étage, « Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour ébranler terriblement la terre ?» Alors les paroles d'Apocalypse 18:1-3 s'accompliront. Tout le 18e chapitre de l'Apocalypse est un avertissement de ce qui doit venir sur la terre. Mais je n'ai pas reçu de lumière particulière quant à ce qui attend New York, sinon que je sais qu'un jour, les grands bâtiments qui s'y trouvent seront renversés par les retournements et bouleversements de la puissance de Dieu. D'après la lumière qui m'a été donnée, je sais que la destruction sévit dans le monde. Un seul mot du Seigneur, un seul acte de sa toute-puissance, et ses imposants édifices tomberont. Des scènes se produiront dont la terreur dépasse ce que nous pouvons imaginer. Review and Herald, 5 juillet 900 Taxisins.
Il y a bien sûr beaucoup plus à dire sur l'islam, mais Shebna représente ceux qui rejettent la vision de l'histoire prophétique fondée sur la répétition de l'histoire, accompagnée de la vérité première de la répétition de l'histoire, à savoir que le commencement d'une chose illustre la fin d'une chose. La restriction de l'islam le 11 août 1840 a fait descendre l'ange de l'Apocalypse, Dick, et la libération de l'islam le 11 septembre a fait descendre l'ange de l'Apocalypse, 18.
Et je dis, écoutez, je vous prie au chef de Jacob et vous, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui leur arrachez la peau et la chair de dessus leurs os, qui dévorez aussi la chair de mon peuple, les écorchez, brisez leurs os et les mettez en pièces, comme pour la marmite, comme de la viande dans le chaudron. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne les écoutera pas. Il leur cachera même son visage en ce temps-là, parce qu'ils se sont mal conduits dans leurs actions. Ainsi parle l'Éternel au sujet des prophètes qui font errer mon peuple. Lorsqu'ils ont de quoi mordre avec leurs dents, ils crient « Paix !» Et à celui qui ne met rien dans leur bouche, ils préparent la guerre. C'est pourquoi la nuit sera pour vous sans vision. Il fera sombre pour vous sans divination. Le soleil se couchera sur les prophètes et le jour s'obscurcira sur eux. Alors les voyants seront confus et les devins couverts de honte. Oui, tous se couvriront les lèvres, car il n'y a pas de réponse de Dieu. Mais moi, je suis rempli de puissance par l'Esprit de l'Éternel, de justice et de force pour annoncer à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Écoutez ceci, je vous prie, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Ils bâtissent Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ses chefs jugent pour des présents, ses prêtres enseignent pour un salaire et ses prophètes devinent pour de l'argent. Puis ils s'appuient sur l'Éternel et disent « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Aucun malheur ne viendra sur nous ?» Michée 3:1-11.
Et la multitude de toutes les nations qui combattent contre Ariel, Jérusalem, oui, toutes celles qui l'attaquent, elle et ses fortifications, et qui la prestent, seront comme un rêve, comme une vision de nuit. Il en sera comme d'un homme affamé qui rêve, et voici, il mange, mais il se réveille, et son âme est vide. Ou comme d'un homme assoiffé qui rêve, et voici, il boit, mais il se réveille, et voici, il est défaillant, et son âme est avide. Ainsi sera la multitude de toutes les nations qui combattent contre la montagne de Sion. Arrêtez-vous, et soyez étonnés. Criez et poussez des cris. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais non de boisson forte. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de profond sommeil, et il a fermé vos yeux. Les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. Et toute la vision est devenue pour vous comme les paroles d'un livre scellé, qu'on remet à un homme instruit, en disant « Lis ceci, je te prie. » Et il dit, « Je ne le peux, car il est scellé. » Et l'on remet le livre à celui qui n'est pas instruit, en disant, « Lis ceci, je te prie. » Et il dit, « Je ne suis pas instruit. » C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Parce que ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais a éloigné son cœur de moi, et que la crainte qu'il a de moi est enseignée par précepte d'homme, voici, je vais faire à l'égard de ce peuple une œuvre merveilleuse et étonnante. Car la sagesse de leurs sages périra, et l'intelligence de leurs hommes prudents sera cachée. Malheur à ceux qui cherchent profondément à cacher leurs conseils au Seigneur, et dont les œuvres sont dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Certainement, votre renversement des choses sera estimé comme l'argile du potier. L'ouvrage dira-t-il de celui qui l'a fait ? Il ne m'a pas fait ? Ou ce qui est formé, dira-t-il de celui qui l'a formé, il n'a point d'intelligence ? Ésaïe 29:7-16.
La vallée de la vision, selon Ésaïe, est un jour de détresse, d'écrasement et de désarroi par le Seigneur Dieu des armées dans la vallée de la vision, de renversement des murailles et de cris vers les montagnes. Ésaïe pleure donc amèrement, tout comme Jésus.
Les larmes de Jésus n'étaient pas dues à la perspective de sa propre souffrance. Juste devant lui se trouvait Gethsémani, où bientôt l'horreur d'une grande obscurité viendrait l'envelopper. On voyait aussi la porte des brebis, par laquelle depuis des siècles on avait conduit les bêtes destinées au sacrifice. Cette porte devait bientôt s'ouvrir pour lui, le grand antitype au sacrifice pour les péchés du monde que toutes ses offrandes avaient préfiguré. Tout près se trouvait le calvaire, le théâtre de son agonie imminente. Cependant, ce n'était pas à cause de ces rappels de sa mort cruelle que le Rédempteur pleurait et gémissait, l'esprit en proie à l'angoisse. Son chagrin n'avait rien d'égoïste. La pensée de sa propre agonie n'effrayait pas cette âme noble et pleine d'abnégation. C'était la vue de Jérusalem qui perçait le cœur de Jésus. Jérusalem qui avait rejeté le Fils de Dieu et méprisé son amour, qui avait refusé d'être convaincu par ses puissants miracles et s'apprêtait à lui ôter la vie. Il voyait ce qu'elle était dans sa culpabilité d'avoir rejeté son Rédempteur, et ce qu'elle aurait pu être si elle avait accepté celui qui seul pouvait guérir sa plaie. Il était venu pour la sauver. Comment pouvait-il l'abandonner ?
Israël avait été un peuple privilégié. Dieu avait fait de leur temple sa demeure. Il était, beau par sa situation, la joie de toute la terre. Psaume 48:2. Le témoignage de plus de 1000 ans des soins protecteurs du Christ et de son tendre amour, tel qu'un père porte à son fils unique, s'y trouvait. Dans ce temple, les prophètes avaient fait entendre leurs solennels avertissements. Là, des encensoirs fumants avaient été balancés, tandis que l'encens, mêlé aux prières des adorateurs, était monté vers Dieu. Là, le sang des bêtes avait coulé, préfigurant le sang du Christ. Là, Jéhovah avait manifesté sa gloire au-dessus du propitiatoire. Là, les prêtres avaient officié, et la pompe des symboles et des cérémonies s'était perpétuée pendant des siècles. Mais tout cela devait prendre fin.
Jésus leva la main, celle qui avait si souvent béni les malades et les souffrants, et l'agitant en direction de la ville condamnée, s'écria, par des paroles entrecoupées de douleur, « Si tu avais connu, toi aussi, du moins en ce jour qui est le tien, les choses qui appartiennent à ta paix. » Ici, le Sauveur s'arrêta et laissa inexprimer ce qu'aurait pu être l'état de Jérusalem si elle avait accepté l'aide que Dieu désirait lui donner, le don de son Fils bien-aimé. Si Jérusalem avait su ce qu'il lui était donné de connaître et avait tenu compte de la lumière que le ciel lui avait envoyée, elle aurait pu se dresser dans la splendeur de la prospérité, reine des royaumes, libre, forte de sa puissance donnée par Dieu. Il n'y aurait pas eu de soldats en armes postés à ses portes, ni d'étendards romains flottant sur ses murailles. Le destin glorieux qui aurait pu bénir Jérusalem si elle avait accepté son Rédempteur se dressa devant le Fils de Dieu. Il vit qu'elle aurait pu, par lui, être guérie de sa cruelle maladie, délivrée de la servitude et établie comme la puissante métropole de la terre. De ses murailles, la colombe de la paix se serait envolée vers toutes les nations. Elle aurait été le diadème de gloire du monde. Mais la lumineuse image de ce que Jérusalem aurait pu être s'efface aux yeux du Sauveur. Il réalise ce qu'elle est désormais sous le joug romain, subissant le courroux de Dieu, voué à son jugement rétributif. Il reprend le fil rompu de sa lamentation. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis dresseront autour de toi des retranchements, t'entoureront, te serreront de toutes parts et te raseront jusqu'au sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation.
Le Christ était venu sauver Jérusalem avec ses enfants, mais l'orgueil pharisaïque, l'hypocrisie, la jalousie et la malignité l'avaient empêché d'accomplir son dessein. Jésus savait la terrible rétribution qui s'abattrait sur la ville condamnée. Il voyait Jérusalem encerclée par des armées, les habitants assiégés réduits à la famine et à la mort, des mères se nourrissant des cadavres de leurs propres enfants, et parents et enfants s'arrachant la dernière bouchée de nourriture les uns aux autres, l'affection naturelle étant détruite par les affres tenaillantes de la faim. Il voyait que l'obstination des Juifs, comme en témoignait leur rejet de son salut, les conduirait aussi à refuser de se soumettre aux armées envahissantes. Il contempla le calvaire, où il devait être élevé, planté de croix aussi serrées que les arbres d'une forêt. Il voyait les malheureux habitants subissant la torture au chevalet et la crucifixion, les beaux palais détruits, le temple en ruine, et de ses murs massifs, il ne restait pas pierre sur pierre, tandis que la ville était labourée comme un champ. Le Sauveur pouvait bien pleurer d'angoisse à la vue de cette scène effroyable.
Jérusalem avait été l'enfant de ses soins, et comme un père tendre pleure sur un fils rebelle, ainsi Jésus pleura sur la ville bien-aimée. « Comment pourrais-je t'abandonner ? Comment pourrais-je te voir voué à la destruction ? Dois-je te laisser aller pour remplir la coupe de ton iniquité ? Une seule âme a une telle valeur qu'en comparaison d'elle, des mondes entiers sombrent dans l'insignifiance. Mais ici, c'était une nation entière qui allait se perdre. Quand le soleil, déclinant rapidement vers l'ouest, disparaîtrait à l'horizon des cieux, le jour de grâce de Jérusalem serait terminé. Tandis que le cortège s'arrêtait sur la crête du mont des Oliviers, il n'était pas encore trop tard pour que Jérusalem se repentît. L'ange de la miséricorde repliait alors ses ailes pour descendre du trône d'or et céder la place à la justice et au jugement prompt, imminent. Mais le grand cœur d'amour du Christ plaidait encore pour Jérusalem, qui avait méprisé ses miséricordes, dédaigné ses avertissements et s'apprêtait à se souiller les mains de son sang. Si Jérusalem voulait seulement se repentir, il n'était pas encore trop tard. Tandis que les derniers rayons du soleil couchant s'attardaient sur le temple, les tours et les pinacles, quelque bon ange ne la conduirait-il pas vers l'amour du Sauveur et ne préviendrait-il pas sa ruine ? Belle et impicité, qui avait lapidé les prophètes, qui avait rejeté le Fils de Dieu, qui, par son impénitence, s'enchaînait dans des liens de servitude. Son jour de miséricorde touchait presque à sa fin. Le désir des âges, 576-578.
Comme la guerre contre Jérusalem est décrite par Ésaïe au chapitre 22, ceux qui attaquent se rangent en ordre de bataille à la porte. Élam et Kir sont à la porte, armes prêtes, et ils découvrent alors la protection de Jérusalem. Chez Ésaïe, la protection que les ennemis découvrent à la porte est l'ombre de l'Égypte.
« Malheur aux enfants rebelles, dit le Seigneur, qui prennent conseil, mais non auprès de moi, et qui se couvrent d'une protection, mais non de mon esprit, afin d'ajouter péché à péché, qui se mettent en route pour descendre en Égypte sans me consulter, pour se fortifier dans la force de Pharaon et se confier à l'ombre de l'Égypte. » Ésaïe 31, 2.
Il est reconnu par les ennemis de Jérusalem que ceux représentés par Shebna ont fait confiance à l'Égypte, pensant que l'Égypte les protégerait, tandis que ceux représentés par Éliakim, le fils de Hilkia, ne se fient pas à l'ombre de l'Égypte, mais sont revêtus de l'Esprit de Dieu et se fient à l'ombre du Très-Haut.
Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui, je me confierai. Psaume 91, 1-2.
Lors de la crise de la loi du dimanche, les vierges sages, représentées par Éliakim, fils de Hilkia, se confient à l'ombre du Très-Haut. Et les vierges folles, représentées par Shegna, se confient à l'ombre de l'Égypte. Le mot traduit par « discovered » signifie « mettre à nu et emmener en captivité ». Les ennemis aux portes reconnaissent que la protection de Jérusalem a été retirée, et Shebna et ses acolytes commencent alors à chercher à se sauver, car ils voient les brèches de la ville de David et constatent qu'il y en a de nombreuses qui permettront à l'ennemi d'entrer. Pris de panique, comme le représente la parabole des 10 vierges, les vierges folles commencent à chercher une protection, mais elles n'en ont aucune. Shebna se tourne vers l'armure de la forêt pour le sauver, mais il est trop tard. Il compte les maisons de Jérusalem et commence à les démolir pour fortifier la muraille, mais il est trop tard. Il rassemble l'eau du bassin inférieur et essaie de la relier à l'eau de l'ancien bassin. Mais il est trop tard. L'eau, en tant que symbole principal du Saint-Esprit, indique qu'il cherche désespérément de l'huile, mais il est trop tard. Dans tous leurs efforts, ils ont oublié le Créateur des bassins et qu'il a fait ces bassins de vérité il y a longtemps. Ils ont oublié que c'était le rocher des âges qui a donné le message autrefois. Ils ont choisi de ne pas marcher dans les anciens sentiers, représentés par les fondements qui ont été établis par l'œuvre de William Miller.
Ennemi cherche à détourner les esprits de nos frères et sœurs de l'œuvre de préparer un peuple à tenir ferme en ces derniers jours. Ces sophismes de Neumédie ont pour but d'éloigner les esprits des dangers et des devoirs de l'heure. Ils tiennent pour rien la lumière que le Christ est venu du ciel donner à Jean pour son peuple. Ils enseignent que les scènes qui sont juste devant nous ne sont pas d'une importance suffisante pour mériter une attention particulière. Ils rendent sans effet la vérité d'origine céleste et dépouillent le peuple de Dieu de son expérience passée, lui donnant à la place une fausse science. Ainsi parle le Seigneur, tenez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, où se trouve la bonne voie, et marchez-y. Jérémie 6,16. Que personne ne cherche à saper les fondements de notre foi, les fondements qui ont été posés au commencement de notre œuvre par l'étude priante de la parole et par la révélation. Sur ces fondements, nous bâtissons depuis 50 ans. Des hommes peuvent supposer qu'ils ont trouvé une voie nouvelle et qu'ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été posé, mais c'est une grande tromperie. Nul ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé. Par le passé, nombreux sont ceux qui ont entrepris l'édification d'une nouvelle foi, l'établissement de nouveaux principes. Mais combien de temps leur édifice a-t-il tenu? Il s'est bientôt effondré, car il n'était pas fondé sur le rocher. Les premiers disciples n'ont-ils pas dû faire face aux propos des hommes? N'ont-ils pas dû écouter de fausses théories, puis, après avoir tout fait, tenir ferme en disant « Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé ». 1 Corinthiens 3,11. Ainsi nous devons retenir ferme jusqu'à la fin le commencement de notre assurance. Des paroles de puissance ont été envoyées par Dieu et par le Christ à ce peuple, les faisant sortir du monde, point par point, dans la claire lumière de la vérité présente. Avec des lèvres touchées par le feu sacré, les serviteurs de Dieu ont proclamé le message. La parole divine a apposé son sceau à l'authenticité de la vérité proclamée. Témoignage, volume 8, 296-297.
Le jour où tout cela a lieu est le jour biblique qu'Ésaïe identifie comme celui où le Seigneur, Dieu des armées, a appelé à pleurer, à mener deuil, à se raser la tête et à se ceindre de sacs.
Et le Seigneur parla à Moïse en disant, « De plus, le dixième jour de ce septième mois sera le jour des expiations. Ce sera pour vous une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez au Seigneur une offrande consumée par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce même jour, car c'est le jour des expiations, afin de faire l'expiation pour vous devant le Seigneur votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce même jour sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera quelque ouvrage ce même jour, cette personne-là, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. Ce sera une loi perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures. Ce sera pour vous un sabbat de repos, et vous humilierez vos âmes le neuvième jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre, vous célébrerez votre sabbat. » Lévitique 23, 26, 32.
Le jour illustré par Shebna et Eliakim, fils de Hilkia, est le jour des expiations antitypiques, qui couvre l'histoire depuis 1844 jusqu'à ce que Michel se lève. Durant cette période, l'adventisme a été appelé à affliger son âme, ou, comme Ésaïe l'exprime, aux pleurs, au deuil, à la calvitie et à se ceindre de sapre.
En 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer l'œuvre du jugement investigatif. Les cas des justes décédés sont examinés devant Dieu. Lorsque cette œuvre sera achevée, le jugement sera prononcé sur les vivants. Combien ces moments solennels sont précieux et importants. Chacun de nous a une cause en instance devant le tribunal du ciel. Nous serons individuellement jugés selon les actes accomplis dans le corps. Dans le service typique, lorsque l'œuvre d'expiation était accomplie par le grand prêtre dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, le peuple devait s'humilier devant Dieu et confesser ses péchés, afin qu'ils soient expiés et effacés. Nous en sera-t-il demandé moins en ce jour antitypique des expiations, alors que Christ, dans le sanctuaire d'en haut, intercède en faveur de son peuple et que la décision finale irrévocable doit être prononcée pour chaque cas? Quel est notre état en ce temps redoutable et solennel? Hélas! Quel orgueil règne dans l'Église! Quelle hypocrisie! Quelle tromperie! Quel amour de la parure, de la frivolité et des divertissements! Quel désir de suprématie! Tous ces péchés ont obscurci l'esprit, de sorte que les choses éternelles n'ont pas été discernées. Ne sonderons-nous pas les Écritures afin de savoir où nous en sommes dans l'histoire de ce monde? Ne nous instruirons-nous pas au sujet de l'œuvre qui s'accomplit pour nous en ce temps et de la position que, en tant que pécheurs, nous devrions occuper pendant que se poursuit cette œuvre d'expiation? Si nous avons quelques soucis du salut de nos âmes, nous devons opérer un changement décisif. Nous devons chercher le Seigneur avec une véritable pénitence. Nous devons, avec une profonde contrition de l'âme, confesser nos péchés, afin qu'ils soient effacés. Message choisi, livre 1, 125-125.
Étant ce jour-là, le Seigneur Dieu des armées appela aux pleurs, au deuil, à se raser la tête et à se cendre de sac. Et voici la joie et l'allégresse. On égorge des bœufs, on tue des brebis, on mange de la viande, on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ésaïe 22, 12, 13.
Le Seigneur appela Shebna à affliger son âme, mais il choisit de manger, de boire et de continuer à faire la fête. Le Seigneur le révéla à ses oreilles, le péché de Shebna ne serait pas purgé. Le mot traduit par « purgé » est celui employé dans le Lévitique pour « expiation ». Ce péché de l'adventisme laodicéen ne sera pas expié. Maintenant, Ésaïe commence à aborder la relation de Shebna, les adventistes laodicéens, avec Eliakim, fils de Hilkia, les adventistes Philadelphia. Shebna est le trésorier, comme Judas l'était. Et Tobaïa, à l'époque de Néhémia, vivait dans le sanctuaire de Dieu, dans une chambre, trésor, où l'on devait conserver les offrandes. Quand Néhémia purifia le temple, il chassa Tobaïa et ses affaires. Shebna doit aussi être jeté dehors. Tous deux illustrent le vomissement de l'adventisme laodicéen au moment de la loi du dimanche.
À cause de la cruauté et de la perfidie des Ammonites et des Moabites envers Israël, Dieu avait déclaré par Moïse qu'il serait à jamais exclu de l'assemblée de son peuple. Voir Deutéronome 23, 3, 6. Au mépris de cette parole, le grand prêtre avait jeté dehors les offrandes entreposées dans une chambre de la maison de Dieu afin de faire de la place pour ce représentant d'une race proscrite. On ne pouvait témoigner un plus grand mépris envers Dieu que d'accorder une telle faveur à cet ennemi de Dieu et de sa vérité. À son retour de Perse, Néhémie apprit la profanation effrontée et prit des mesures promptes pour expulser l'intrus. « Cela me peine profondément, » déclare-t-il. C'est pourquoi je jetai dehors tous les effets domestiques de Tobia hors de la chambre. Puis je donnai des ordres, et ils purifièrent les chambres. Et j'y rapportai de nouveau les ustensiles de la maison de Dieu, avec l'offrande de céréales et l'encens. Non seulement le temple avait été profané, mais les offrandes avaient été utilisées à mauvais escient. Cela avait eu pour effet de décourager la générosité du peuple. Ils avaient perdu leur zèle et leur ferveur, et étaient réticents à payer leurs dîmes. Les trésors de la maison du Seigneur étaient mal pourvus. Beaucoup des chantres et d'autres engagés dans le service du temple, ne recevant pas un soutien suffisant, avaient quitté l'œuvre de Dieu pour travailler ailleurs. Prophètes et Rois, 770.
Shibna, Judas et Tobiah représentent tous les Adventistes Laodicéens à la fin des temps.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va, rends-toi auprès de ce trésorier, Shibna, qui est préposé à la maison. Et dis, qu'as-tu ici? Et qui as-tu ici, que tu t'es taillé ici un sépulcre, comme celui qui se taille un sépulcre sur la hauteur et qui se grave une demeure dans le rocher? Voici, le Seigneur t'emportera dans une puissante captivité et il t'enveloppera sûrement. Il te fera certainement tourner et te jettera violemment comme une balle dans un pays vaste. Là, tu mourras et là les chars de ta gloire seront la honte de la maison de ton Seigneur. Et je te chasserai de ton poste et de ta dignité il te fera descendre. Ésaïe 22, 15-19.
Alors que le roi du Nord s'approche de Jérusalem, il faut se rappeler que cette approche est progressive et que les habitants de Jérusalem savaient qu'elle arrivait. C'est ce qui est identifié dans Ésaïe chapitre 20, lorsque Tartan, le commandant assyrien, a conquis Ashdod, en Égypte. Il savait ce qui allait arriver et Shebna a passé son temps à se faire une tombe somptueuse. Des archéologues ont trouvé la tombe de Shebna et ont retiré l'inscription qui se trouvait à l'entrée de la tombe. Elle se trouve maintenant dans un musée britannique. Fait étonnant, lorsque Shebna fut destitué et qu'Eliakim, fils de Hilkia, reprit la fonction de direction de Shebna, Eliakim, fils de Hilkia, reçut un sceau royal, qu'il pouvait utiliser pour apposer son nom sur des documents officiels. Ce sceau a également été découvert par des archéologues et se trouve dans le même musée en Angleterre. Shebna est au musée représenté par sa tombe, la marque de la mort, et Eliakim, fils de Hilkia, y est représenté par le sceau de la vie. À cause du rejet, par Shebna, du message d'avertissement concernant le roi du Nord, il fut vomi de la bouche du Seigneur. Et le mot traduit par « vomi » dans l'avertissement de l'Apocalypse à Laodicée signifie en réalité des vomissements en jet. Avec Néhémie, il chassa Tobéa et ses effets, et quant à Shebna, il fut violemment projeté comme une ville dans un pays lointain. Shebna représente les adventistes de Laodicée qui rejettent le message prophétique qui a été décelé en 1989 et se prépare pour la tombe, la marque de la bête. Et Eliakim, le fils de Hilkia, est l'adventisme de Philadelphie qui reçoit le sceau de Dieu.
Et il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkia. Je le revêtirai de ta robe, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton autorité entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Ésaïe 22, 20, 21.
Au moment de la loi du dimanche, le bon grain et l'ivraie de l'adventisme sont séparés, et la direction de l'Église triomphante est confiée à Eliakim, fils de Hilkia. Le Seigneur érige alors son Église en étendard, tandis que le message du troisième ange prend de l'ampleur jusqu'au grand cri. J'ai peut-être été trop redondant en incluant l'expression « fils de Hilkia », alors que je pourrais simplement dire « Eliakim ». Mais ensemble, le père et son enfant sont un symbole du message d'Élie avant les sept dernières plaies. Le message d'Élie emploie le symbolisme des pères et des enfants pour représenter le premier, le père, et le dernier, le fils. Cette relation prophétique contribue aux énigmes finales du chapitre 22. La promesse faite à Eliakim, fils de Hilkia, est que le Seigneur mettrait sur son épaule la clé de la maison de David. La maison de David est le message du Père et du Fils auquel Jésus a fait référence lors de sa dernière conversation avec les Juifs rebelles. C'est aussi là qu'il clôt le livre de l'Apocalypse. La maison de David possédait une clé, laquelle, à tout le moins, est utilisée le 22 octobre 1844, car le seul passage des Écritures qui fait référence à cette clé se trouve dans le message adressé à l'Église de Philadelphie.
« Et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. » Ésaïe 22, 22. « Et à l'ange de l'Église à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, J'ai mis devant toi une porte ouverte, que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai en sorte que ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais mentent, viennent se prosterner à tes pieds et sachent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent la terre. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 7, 12.
Eliakim représente un Philadelphien durant le mouvement millérite qui ouvre le lieu très saint le 22 octobre 1744. Je sais que c'est le Christ, notre souverain sacrificateur, qui a ouvert cette porte de la dispensation. Mais le Christ a posé la clé sur l'épaule d'Eliakim, fils de Hilkia, et affirme « Il ouvrira ». Nous avons atteint le point que j'ai indiqué au début de cet article. Il y a 18 occurrences dans le livre d'Isaïe du mot « burden », mais 7 d'entre elles désignent quelque chose qui est porté sur l'épaule. Et dans 11 cas, il désigne une prophétie de malheur. Dans l'une de ces 18 occurrences, ce même mot, au sens de prophétie de malheur, est simultanément employé pour désigner un fardeau porté sur l'épaule. L'histoire de la vallée de la vision parle de messages de malheur qui créent deux catégories d'adorateurs à Jérusalem. Le message prophétique qui identifiait l'ouverture du jugement a été présenté par le père Miller, et c'est le message du premier ange qui a pris fin lorsque la porte du lieu saint a été fermée et que le lieu très saint a été ouvert, le 22 octobre 1844. Le fardeau qui a été placé sur l'épaule de William Miller, qu'il était chargé de porter au monde, était le message du premier ange, une prophétie de malheur qui a pris fin le 22 octobre 1844 avec l'arrivée du message du troisième ange. La clé de la maison de David, je la mettrai sur son épaule. Et il est dit, en ce jour-là, le clou qui est fixé en place sûre sera ôté, sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera retranché. Le mot traduit ici par « fardeau » est celui qui désigne une prophétie de malheur. Mais cette prophétie de malheur n'est pas le mot hébreu qu'Ésaïe emploie pour désigner quelque chose que l'on porte sur l'épaule. En tant que terme désignant une prophétie de malheur, cela signifie qu'Eliakim, fils de Hilkia, aurait la clé de David placée sur son épaule, et que le fardeau qui est sur son épaule est une prophétie de malheur. C'est un jeu de mots profond. Sir White dit ceci au sujet d'une clé qui est attachée à la Bible.
En rapport avec la parole de Dieu, il existe une clé qui ouvre l'écrin précieux pour notre satisfaction et notre joie. Je suis reconnaissant pour chaque rayon de lumière. À l'avenir, des expériences qui nous semblent aujourd'hui très mystérieuses seront expliquées. Certaines expériences, nous ne les comprendrons peut-être jamais pleinement jusqu'à ce que ce mortel revête l'immortalité. Manuscript Releases, volume 17, 251.
Les propos liminaires de Millel concernant son rêve disent ceci.
J'ai rêvé que Dieu, par une main invisible, m'envoyait un coffret curieusement ouvragé, d'environ 10 pouces de long et de 6 pouces de côté, en ébène, curieusement incrusté de perles. Au coffret était attachée une clé. Je pris immédiatement la clé et j'ouvris le coffret. À mon émerveillement et à ma surprise, je le trouvai rempli de joyaux de tringeurs, de toutes sortes et de toutes tailles, de diamants, de pierres précieuses, ainsi que de pièces d'or et d'argent de toutes dimensions et de toutes valeurs, magnifiquement disposées, chacun à sa place dans le coffret. Et ainsi disposés, ils réfléchissaient une lumière et une gloire que seul le soleil pouvait égaler. Premiers écrits. 81.
Dans les notes de bas de page de James White sur le rêve, il dit ceci de la clé.
La clé attachée était sa manière d'interpréter la parole prophétique, comparant l'écriture avec l'écriture. La Bible, son propre interprète. Avec cette clé, le frère Miller ouvrit le coffret, ou la grande vérité de l'avènement au monde. James White.
James White a commenté sur rêve. Et, ce faisant, il a rédigé une introduction. Il est très important de reconnaître que Miller a eu ce rêve et l'a publié en 1847, au moins 2 ans après la Grande Déception, lorsque les adventistes millérites, autrefois unis, avaient été dispersés. Miller était séparé du mouvement, et le petit troupeau, qui avait été dispersé au loin, souffrait encore de la déception. Le rêve de Miller répondait à la situation, et James White l'a commenté.
et Ellen White s'y est référée d'une manière absolument positive. James White a écrit une introduction au rêve de Miller, y a inclus ce rêve, puis a ajouté quelques notes de bas de page. Son introduction, le rêve et les notes de bas de page se trouveront à la fin de cet article pour ceux qui ont besoin d'accéder à ces informations. Ésaïe 22 illustre le commencement et la fin de l'adventisme. Dans les deux histoires, une séparation a eu lieu et aura lieu. Le 22 octobre 1844, puis de nouveau lors de la loi du dimanche. La séparation, dans les deux cas, le commencement et la fin, est l'accomplissement de la parabole des 10 vierges. Sir White nous informe que les vierges folles sont des Laodicées. Shebna représente les adventistes laodicéens au commencement et à la fin de l'adventisme. Eliakim, fils de Hilkiah, représente les adventistes philadelphiens.
May Hilkiah represent also the pair to the Adventism, car il sera un pair pour le Zabatin de Zarius and pour la Maison de Judah. William Miller et cette respectueuse dame appelée Père Miller. Miller avait la clé de David placée sur son épaule, ce qui représente sa méta deeds des écritures, ligne sur ligne.
Le coffret étant la Bible, il utilisa la clé de David, représentant les règles d'interprétation prophétique qu'il employait pour ouvrir les vérités du premier ange. Ces règles, la clé de David, et sa prophétie de malheur, le fardeau, comprise grâce à la clé de David, furent accrochées comme sur un clou dans un lieu sûr, dans le sanctuaire. Le clou était la date du 22 octobre 1844. Le mot « clou » signifie une épingle, un clou ou un piquet, représentant un jalon. Le fardeau, c'est-à-dire la prophétie de malheur qui était suspendue à ce clou, était le message du premier ange, et ce message est arrivé à sa conclusion le 22 octobre 1844, lorsque la prophétie de malheur s'était accomplie et fut retirée, abattue, et elle tomba. Elle fut retirée car le message prophétique de malheur était devenu chose du passé, et le clou dut alors être déplacé dans le lieu très saint où un autre fardeau de malheur serait suspendu à ce clou. La prophétie de malheur de Miller, comprise selon les règles prophétiques représentées comme « la clé de David », placerait un clou dans le lieu saint qui soutiendrait toute la gloire de la maison de son père. Le mot « gloire » dans le passage signifie « poids ». Ce qui supporte le poids d'une maison, ce sont ses fondations. L'œuvre fondatrice de Miller supporte le poids de toute la lumière supplémentaire du message du troisième ange, représentée par la progéniture et la descendance. Elle supporte le poids de tous les divers ustensiles du temple. Et les fondations ont été posées pour un temple afin d'y placer un trône glorieux.
Eliakim, fils de Hilkiah, représente l'église de Philadelphie.
Eliakim signifie le Dieu qui relève, car Eliakim, le père de Jérusalem, représente William Miller, dont Dieu s'est servi pour relever les fondements du peuple d'alliance que Dieu a choisi. Il est le fils de Hilkiah, nom dérivé de deux mots, le second signifiant « Dieu » et le premier signifiant « douceur », au sens de douceur dans la manière de parler. Hilkiah représente la parole ou la voix de Dieu, et son fils représente le relèvement du temple.
À la fin de l'adventisme, il doit y avoir une prophétie de malheur, et cette prophétie est le troisième ange de l'Apocalypse, 14. Il doit y avoir, à la fin, une clé qui était préfigurée par la clé de Miller. La clé à notre époque repose sur la répétition de l'histoire, et en particulier sur la règle de la première mention, qui inclut ou est le principe représenté par Christ lui-même en tant que l'alpha et l'oméga. Il doit y avoir un fils de Miller. Miller alors, en tant que père, devient Hilkiah, la parole du Seigneur, et le fils de Miller est Eliakim, c'est-à-dire le Dieu qui relève. Le père Miller a relevé le temple, et le fils de Miller identifie le moment où Laodicée et Philadelphie sont séparés et où les Philadelphiens sont élevés comme un étendard. Il doit y avoir un clou qui est fixé, mais non dans le lieu saint comme dans l'histoire de Miller, mais dans le lieu très saint. Ce clou et le fardeau qui y est suspendu seront retranchés à la fin du message du troisième ange, comme ce fut le cas à la fin du message du premier ange. Quand Michel se lèvera et que la probation humaine prendra fin, la prophétie de malheur appartiendra au passé, sera ôtée, retranchée et tombée.
La séparation, la dispersion après l'écoulement du temps en 1844 se répétera au moment de la loi du dimanche. Ésaïe 22 illustre les circonstances qui conduisent à la séparation des adventistes laodicéens d'avec les adventistes philadelphiens, laquelle a lieu lors de la crise de la loi du dimanche.
Et à l'ange de l'église des laodicéens écrit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Je voudrais que tu sois froid ou chaud. Ainsi, Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et oint tes yeux de collyre afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, j'accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 7, 22.
Après l'introduction au rêve, James White inclut ensuite le rêve avec des notes de bas de page. Je n'ai aucun problème avec la façon dont James White applique le rêve de Miller, bien que nous ayons souvent publié une interprétation de ce rêve qui diffère quelque peu de la sienne. L'approche de base de James White, qui diffère de ce que nous avons publié, consiste à placer les joyaux dans le contexte du peuple de Dieu, tandis que, pour nous, ces joyaux sont des vérités prophétiques. Il n'y a pas de contradiction, car un homme reflète ce qu'il croit, et la dispersion des joyaux après la grande déception préfigure la dispersion du peuple de Dieu avant la loi du dimanche. Mais ce point fera l'objet d'une étude ultérieure.
L'introduction de James White au rêve de William Miller.
Le rêve suivant a été publié dans l'Advent Herald il y a plus de 2 ans. J'ai alors vu qu'il décrivait clairement notre expérience passée du second avènement et que Dieu avait donné ce rêve pour le bien du troupeau dispersé. Parmi les signes de l'imminence du grand et terrible jour du Seigneur, Dieu a placé les songes. Voir Joël 2, 28, 31, Actes 2, 17, 20. Les songes peuvent venir de 3 manières. Premièrement, par la multitude des occupations. Voir Ecclésiaste 5, 3. Deuxièmement, ceux qui sont sous l'esprit immonde et la tromperie de Satan peuvent avoir des songes sous son influence. Voir Deutéronome 8, 1, 5, Jérémie 23, 5, 1, 5, 27, 9, 29, 40, Zacharie 10, 2, Jude 8. Et troisièmement, Dieu a toujours enseigné, et enseigne encore, son peuple, plus ou moins par des songes, qui viennent par l'entremise des anges et du Saint-Esprit. Ceux qui se tiennent dans la claire lumière de la vérité sauront quand Dieu leur donne un songe, et de telles personnes ne seront pas trompées ni égarées par de faux songes.
Est-il dit « Écoutez maintenant mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, me ferai connaître à lui dans une vision et lui parlerai dans un songe. » Nombre 12, 5.
Jacob dit « L'ange du Seigneur m'a parlé dans un songe. » Genèse 31, 2. Et Dieu vint vers Laban, le Syrien, dans un songe pendant la nuit. Genèse 31, 2, 4. Lisez les rêves de Joseph dans Genèse 37, 5, 9, puis l'intéressante histoire de leur accomplissement en Égypte. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon en songe, pendant la nuit. 1 Roi 3, 5. La grande et importante image du 2e chapitre de Daniel fut donnée en songe, ainsi que les 4 bêtes, etc., du 7e chapitre. Quand Hérode chercha à détruire le sauveur enfant, Joseph fut averti en songe de fuir en Égypte. Matthieu 2, 13.
« Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Actes 2, 17. Le don de prophétie par des rêves et des visions est ici le fruit du Saint-Esprit, et dans les derniers jours, il doit se manifester suffisamment pour constituer un signe. C'est l'un des dons de l'Église de l'Évangile. Et il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4, 11, 12.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, en second lieu des prophètes, etc. Corinthiens 7, 28.
Ne méprisez pas les prophéties. 1 Thessaloniciens 5, 20. Voir aussi Actes 13, 1, 21, 9, Romains 12, 6, 1 Corinthiens 4, 1, 24, 39. Les prophètes ou les prophéties servent à l'édification de l'Église du Christ, et on ne peut tirer de la parole de Dieu aucune preuve qu'il devait cesser avant que cessent les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais, dit le contradicteur, il y a eu tant de fausses visions et de faux rêves que je ne puis avoir confiance en quoi que ce soit de ce genre.
Il est vrai que Satan a sa contrefaçon. Il a toujours eu de faux prophètes, et certes, nous pouvons nous attendre à les voir maintenant, en cette dernière heure de sa séduction et de son triomphe. Ceux qui rejettent de telles révélations particulières sous prétexte que la contrefaçon existe peuvent, avec tout autant de raisons, aller un peu plus loin et nier que Dieu se soit jamais révélé à l'homme dans un rêve ou une vision, puisque la contrefaçon a toujours existé. Les songes et les visions sont le moyen par lequel Dieu s'est révélé à l'homme. Par ce moyen, il s'est adressé aux prophètes, il a placé le don de prophétie parmi les dons de l'Église, de l'Évangile, et a classé les songes et les visions parmi les autres signes des derniers jours. Amen. Mon but, dans les remarques qui précèdent, a été d'écarter les objections d'une manière conforme aux Écritures et de préparer l'esprit du lecteur à ce qui suit. James White, le rêve du frère Miller, 1-3.
Le second rêve de William Miller.
Je rêvais que Dieu, par une main invisible, m'envoya un coffret finement ouvragé d'environ 10 pouces de long sur 6 pouces de côté, fait d'ébène et finement incrusté de perles. Au coffret était attachée une clé. Je pris aussitôt la clé et j'ouvris le coffret. Lorsqu'à mon étonnement et à ma surprise, je le trouvai rempli de bijoux de toutes sortes et de toutes tailles, de diamants, de pierres précieuses et de pièces d'or et d'argent de toutes dimensions et de toutes valeurs, merveilleusement disposés chacun à sa place dans le coffret. Et ainsi disposés, ils reflétaient une lumière et une gloire n'égalées que par le soleil. Je ne pensais pas devoir jouir seul de ce spectacle merveilleux, bien que mon cœur fût transporté de joie par l'éclat, la beauté et la valeur de son contenu. Je le posai donc sur une table au centre de ma chambre et fis savoir que tous ceux qui en avaient le désir pouvaient venir voir le spectacle le plus glorieux et le plus éclatant que l'homme ait jamais vu en cette vie. Les gens commencèrent à entrer. D'abord peu nombreux, mais leur nombre augmenta jusqu'à former une foule. Lorsqu'ils regardaient d'abord dans le coffret, ils semblaient émerveillés et poussaient des cris de joie. Mais à mesure que les spectateurs affluaient, chacun se mettait à manipuler les bijoux, les sortant du coffret et les éparpillant sur la table. Je me mis à penser que le propriétaire me redemanderait le coffret et les bijoux, et si je les laissais éparpiller, je ne pourrais jamais les remettre à leur place dans le coffret comme auparavant. Et je sentais que je ne pourrais jamais répondre de cette responsabilité, tant elle serait immense. Je me mis alors à supplier les gens de ne pas les toucher, ni de les sortir du coffret. Mais plus je suppliais, plus ils les éparpillaient, et maintenant, ils semblaient les répandre dans toute la pièce, par terre et sur chaque meuble de la pièce. Je vis alors que, parmi les joyaux véritables et la monnaie authentique, ils avaient disséminé une quantité innombrable de faux joyaux et de fausses monnaies. Je fus fort courroucé de leur conduite ignoble et de leur ingratitude, et je les en repris et leur en fis reproche. Mais plus je les reprenais, plus ils répandaient les faux joyaux et la fausse monnaie parmi les véritables. Je fus alors contrarié dans mon âme physique et me mis à employer la force physique pour les pousser hors de la pièce. Mais tandis que j'en expulsais un, trois autres entraient et apportaient de la saleté, des copeaux, du sable et toutes sortes d'ordures, jusqu'à recouvrir chacun des véritables joyaux, diamants et pièces de monnaie qui se trouvaient tous soustraits à la vue. Ils mirent aussi en pièces mon coffret et l'éparpillèrent parmi les ordures. Je pensais que personne ne se souciait de ma peine ni de ma colère. Je devins tout à fait découragé et abattu, et je m'assis et me mis à pleurer. Alors que je pleurais ainsi et me lamentais sur ma grande perte et ma responsabilité, je me souvins de Dieu et priai ardemment pour qu'il m'envoie de l'aide. Aussitôt, la porte s'ouvrit, et un homme entra dans la pièce, tandis que tous les autres en sortirent. Et lui, tenant une balayette à la main, ouvrit les fenêtres et se mit à balayer la saleté et les détritus hors de la pièce. Je lui criai de s'abstenir, car il y avait quelques joyaux précieux éparpillés parmi les débris. Il m'a dit « N'aie pas peur, car il s'en occuperait. » Alors, tandis qu'il balayait la poussière et les ordures, les faux bijoux et la fausse monnaie, le tout s'éleva et sortit par la fenêtre comme un nuage, et le vent l'emporta. Dans le tumulte, je fermai les yeux un instant. Quand je les rouvris, les ordures avaient toutes disparu. Les pierres précieuses, les diamants, les pièces d'or et d'argent gisaient éparpillées en profusion dans toute la pièce. Il posa alors sur la table un coffret, beaucoup plus grand et plus beau que le précédent, et ramassa les bijoux, les diamants, les pièces de monnaie, par poignées, et les jeta dans le coffret, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus un seul, bien que certains des diamants ne fussent pas plus gros que la pointe d'une épingle. Il me demanda alors de « venir voir ». Je regardai dans le coffret, mais mes yeux furent éblouis à cette vue. Il brillait d'une gloire 10 fois plus grande qu'auparavant.
Je pensais qu'ils avaient été frottés dans le sable par les pieds de ces méchants qui les avaient dispersés et foulés dans la poussière. Ils étaient rangés dans le coffret, dans un bel ordre, chacun à sa place, sans qu'on pût discerner aucun effort de l'homme qui les y avait jetés. Je poussai un cri de pure joie, et ce cri me réveilla. Early Writings, 90-83.
Note de bas de page de James White.
Le coffret représente les grandes vérités de la Bible, relatives au second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été données au frère Miller pour être publiées au monde. La clé attachée était sa manière d'interpréter la parole prophétique, en comparant l'Écriture avec l'Écriture, la Bible étant son propre interprète. Avec cette clé, le frère Miller ouvrit au monde le « MacFrey », c'est-à-dire la grande vérité de l'avènement. Les gens commencèrent à entrer, d'abord peu nombreux, mais leur nombre augmenta jusqu'à former une foule. Lorsque la doctrine de l'avènement fut d'abord prêchée par le frère Miller et par très peu d'autres, elle n'eut que peu d'effet et très peu en fut réveillée. Mais de 1840 à 1844, partout où elle était prêchée, toute la communauté fut mise en émoi. Les joyaux, diamants, etc. de toutes sortes et de toutes tailles, si magnifiquement arrangés chacun à sa place dans l'écrin, représentent les enfants de Dieu. Malachie 3:17, issus de toutes les églises et de presque tous les rangs et toutes les conditions de la vie, qui ont reçu la foi de l'avènement et qu'on a vu prendre une position courageuse, chacun à son poste, dans la sainte cause de la vérité. Tout en avançant dans cet ordre, chacun s'acquittant de son propre devoir et marchant humblement devant Dieu, il reflétait une lumière et une gloire sur le monde, égalée seulement par l'Église au jour des apôtres. Le message Apocalypse 14:6-7 alla, pour ainsi dire, sur les ailes du vent, et l'invitation « Venez, car tout est maintenant prêt » Luc 14:6-7 se répandit avec puissance et effet. Lorsque l'ange volant Apocalypse 14:6-7 commença pour la première fois à prêcher l'Évangile éternel, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue », beaucoup poussèrent des cris de joie à la pensée de la venue de Jésus et de la restitution, qui ensuite s'opposèrent, se moquèrent et ridiculisèrent la vérité qui, peu auparavant, les avait remplis de joie. Ils troublèrent et dispersèrent les joyaux. Cela nous amène à l'automne de 1844, lorsque le temps de la dispersion commença. Notez bien, ce sont ceux qui autrefois poussèrent des cris de joie qui troublèrent et dispersèrent les joyaux. Et personne n'a aussi efficacement dispersé le troupeau ni ne l'a égaré depuis 1844 que ceux qui autrefois prêchaient la vérité et s'en réjouissaient, mais qui ont depuis renié l'œuvre de Dieu et l'accomplissement de la prophétie dans notre expérience adventiste passée. Le témoignage du frère Miller. Pendant plusieurs mois après le cri de minuit, au septième mois de 1844, était que la porte était fermée, que le mouvement adventiste était l'accomplissement de la prophétie, et que nous avions eu raison de prêcher le temps. Il exhorta alors ses frères, par l'Advent Herald, à tenir ferme, à être patients et à ne pas garder rancune les uns contre les autres, et Dieu les justifierait bientôt pour avoir prêché le temps. De cette manière, il plaida pour les joyaux, tout en ressentant sa responsabilité à leur égard, et que ce serait immense. Les fausses pierres précieuses et fausses monnaies, qui étaient éparpillées parmi les véritables, représentent clairement de faux convertis ou des enfants étrangers. Osée 5.7, depuis que la porte a été fermée en 1844. Le second coffret, beaucoup plus grand et plus beau que le premier, dans lequel les joyaux, diamants et pièces de monnaie dispersées ont été rassemblés, représente le vaste champ de la vérité présente vivante dans lequel le troupeau dispersé sera rassemblé, à savoir 144 000, tous ayant le sceau du Dieu vivant. Pas un seul des précieux diamants ne sera laissé dans l'obscurité. Bien que certains ne soient pas plus grands que la pointe d'une épingle, ils ne seront ni négligés, ni laissés de côté en ce jour où Dieu rassemble ses joyaux. Malachie 3:16-18. Il peut envoyer ses anges et les faire sortir en hâte, comme il fit sortir Lot de Sodome. Le Seigneur accomplira une œuvre brève sur la terre. Il l'abrégera dans la justice. Voir Romains 9:28. Les saletés et copeaux, le sable et toutes sortes de déchets représentent les diverses et nombreuses erreurs qui ont été introduites parmi les croyants au second avènement depuis l'automne de 1844. J'en signalerai ici quelques-unes. Une opposition que certains des bergers ont présomptueusement adoptée immédiatement après que le cri de minuit eut été proclamé, à savoir que la puissance solennelle et attendrissante du Saint-Esprit accompagna le mouvement du septième mois, n'était qu'une influence mesmérique. George Storrs fut parmi les premiers à adopter cette position.
voyait ses écrits vers la fin de 1844 dans le Midnight Cry, alors publié à New York. G.V. H. Himes, à la conférence d'Albany au printemps 1845, déclara que le mouvement du septième mois produisait un mesmérisme profond de 7 pieds. Ceci m'a été dit par quelqu'un qui était présent et qui a entendu la remarque. D'autres qui ont pris une part active au cri du septième mois ont depuis déclaré que ce mouvement était l'œuvre du diable. Attribuer l'œuvre du Christ et du Saint-Esprit au diable était, au jour de notre Sauveur, un blasphème. Et c'est un blasphème aujourd'hui.
Tiens, les nombreuses tentatives de fixer un temps déterminé. Depuis que les 2300 jours ont pris fin, en 1844, un assez grand nombre de dates ont été fixées par différentes personnes, pour leur terme. Ce faisant, ils ont supprimé les repères et ont jeté des ténèbres et du doute sur tout le mouvement adventiste.
Soit, le spiritisme avec toutes ses fantaisies, ses extravagances. Cette ruse du diable, qui a accompli une œuvre terrible de mort, est très justement représentée par des copeaux et toutes sortes de débris. Beaucoup de ceux qui ont avalé le poison du spiritisme ont reconnu la vérité de notre expérience adventiste passée, et de ce fait, beaucoup ont été amenés à croire que le spiritisme était le fruit naturel de la croyance que Dieu avait dirigé les grands mouvements adventistes de 1843 et de 1844. Pierre, parlant de ceux qui devaient introduire des hérésies damnables, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, dit « À cause d'Ella, la voix de la vérité sera calomniée. »
4 S.S. Snow, prétendant être Élie le prophète. Cet homme, dans sa carrière étrange et effrénée, a lui aussi joué son rôle dans cette œuvre de mort. Et sa conduite a eu tendance, dans l'esprit de beaucoup d'âmes honnêtes, à jeter le discrédit sur la véritable position des saints dans l'attente.
À ce catalogue d'erreurs, je pourrais en ajouter bien d'autres, tels que les 1000 ans de l'Apocalypse 24-7 dans le passé, les 480 000 de l'Apocalypse 7-4, 14 en 1, ceux qui se sont levés et sont sortis des tombeaux après la résurrection du Christ, la doctrine du non-travail, la doctrine de la destruction des enfants, etc., etc.
Ces erreurs furent si activement propagées et si instamment recommandées aux troupeaux qui attendaient qu'au moment où le frère Miller eut le songe, les vrais joyaux étaient cachés au regard et les paroles du prophète s'appliquaient. Et le jugement est repoussé en arrière et la justice se tient au loin, etc., etc. Voir Ésaïe 59:14. À cette époque, il n'y avait pas dans le pays un seul journal adventiste qui défendît la cause de la vérité présente. The Day Dawn fut le dernier à défendre la véritable position du petit troupeau, mais il cessa de paraître plusieurs mois avant que le Seigneur donnât ce songe au frère Miller. Et dans ses derniers efforts agonisants, il indiqua aux saints las et soupirants l'année 1877, alors à 30 ans dans l'avenir, comme l'époque de leur délivrance finale. Hélas, hélas, il n'est pas étonnant que le frère Miller, dans son rêve, s'assit et pleura devant ce triste état de choses.
Frère Miller ferma les yeux pour la dernière fois le 22 décembre 1849, ce qui accomplit les paroles suivantes de son rêve. Dans le tumulte, je fermai les yeux un instant. Cet accomplissement merveilleux est si évident que nul ne manquera de le voir.
Le coffret représente la vérité de l'avènement que frère Miller a fait connaître au monde, comme l'indique la parabole des 10 vierges.
Matthieu 25, 1 à 11. Premièrement, le temps, 843. Deuxièmement, le temps d'attente. Troisièmement, le cri de minuit, au septième mois, 1844. Et quatrièmement, la porte fermée. Nul parmi ceux qui ont lu les journaux du second avènement depuis 1843 ne niera que frère Miller a soutenu ces 4 points importants de l'histoire de l'avènement. Ce système harmonieux de vérité, ou coffret, a été mis en pièces et dispersé parmi les rebuts par ceux qui ont rejeté leur propre expérience et ont nié les vérités même qu'eux-mêmes, avec frère Miller, ont prêché si hardiment au monde.
L'Église sera alors pure et juste sans défaut devant le trône de Dieu. Après avoir confessé toutes ses erreurs, ses fautes et ses péchés et les avoir lavés par le sang du Christ et effacés, elle sera sans tache ni ride ni rien de semblable. Alors elle resplendira de 10 fois sa gloire première. James White, Oswego, May 17 Cincinnati,